Éric Turgeman, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable adjoint mondial des gestions actions chez Amundi. On va parler avec vous de ces marchés, de la stratégie d'investissement. On peut dire qu'on a en ce moment une période un peu compliquée. On voit effectivement un certain nombre d'inquiétudes, même si les marchés restent quand même, marchés actions en tout cas, restent à des niveaux intéressants. Quel regard vous portez justement sur tout ce qui se passe, les sujets aux États-Unis? Est-ce que ça a un impact sur la vision que vous avez du marché actions?
Oui, alors un point, hein, vous disiez les marchés sont à un niveau intéressant, les marchés sont au plus haut historique. On a du mal à le comprendre quand on est français parce qu'on a ce fameux CAC 40 en tête. Ça pourrait faire l'objet de notre entretien, mais le CAC 40 n'est pas du tout représentatif des marchés pour un tas de raisons. Il est mal construit et puis surtout il concerne des valeurs françaises qui ont une partie quand même de leur chiffre d'affaires en France. Mais d'une manière générale, les marchés mondiaux, hein, on peut prendre le MSCI World, est au plus haut historique, le S&P, le DAX, etc. Donc la question, hein, c'est plutôt de savoir est-ce qu'on va continuer ou non, quel marché, quels sont les risques. Globalement, des risques, il y en a, il y en aura toujours, hein. Alors là, on est focalisé sur ce qui se passe aux États-Unis, hein, avec un peu cette opposition entre démocrates et républicains, mais au-delà de ça, la dette aux États-Unis. De temps en temps, il y a toujours un peu de folklore autour de l'Europe. C'était l'Italie il y a 2 semaines. Ça va continuer. Mais est-ce que l'environnement est propice ou non au marché actions? Je crois que oui. Je crois que oui, parce qu'on est dans une, on a une fenêtre de tir qui est très agréable. Les taux vont rester bas. Les banques centrales ne prendront pas le risque de casser la reprise qu'on a. Et puis on a quand même une inflexion de tendance. Donc en Europe, on est, je ne suis pas en train de vous dire que la croissance va exploser. Elle explosera plus jamais en Europe pour des tas de raisons démographiques. Le fait qu'en Europe, on est très équipé. Je pense que vous avez peut-être 2 portables, j'en ai 2. On va pas en avoir 10 chacun. Enfin, c'est un exemple, mais donc on est bien équipé. C'est dans les pays émergents qu'il y aura ce relais de croissance, pas en Europe. Mais pour autant, on ne peut pas lier l'économie et la bourse. Et aujourd'hui, on a des marchés qui ne sont pas surévalués. On a une inflexion de tendance avec une croissance mondiale qui va peut-être tourner autour de 3,5%.
Donc quelque part, on s'habitue
Oui,
à cette croissance plus faible que...
mais elle est suffisante en tout cas pour permettre cette croissance, hein, et ça a été historiquement prouvé, une croissance de plus de 3% est suffisante pour que les sociétés européennes accroissent leurs bénéfices d'une année sur l'autre. Alors si vous me dites la croissance en 2014-2015 va tomber à 2%, là, sauf qui peut, mais on n'est pas dans cette logique-là. Donc on n'a pas besoin d'avoir une croissance de 7-8% pour avoir des hausses des profits. Et comme on n'est pas surévalué, maintenant, on peut avoir ce relais des profits. Voilà, enfin je...
Ouais. Parce que oui, ce qu'on disait que les banquiers centraux, Réserve fédérale américaine et autres, quelque part, avaient incité les investisseurs à aller prendre plus de risques. Donc on pourrait dire que ça a été fait.
Oui.
Quand on sait ce qui se passe sur les marchés obligataires de manière historique, on sait que le pilotage de
Oui.
remontée de taux n'est jamais facile.
Ça va être quelque chose qu'il faudra conduire de manière intelligente. Donc la nouvelle chairwoman, on va dire, je pense, le fera d'une manière assez. Enfin, là où sera partielle, on va pas du jour au lendemain inverser la politique monétaire. Enfin, je ne suis pas inquiet là-dessus. Ils ne prendront pas le risque de casser une croissance qui ne fait que redémarrer. Je vais prendre une image. On a un incendie dans la forêt. On envoie des canadairs. C'est ce qui s'est passé finalement, hein. Bernanke a envoyé des canadairs pour éteindre l'incendie. Et la question, c'est est-ce que le fait d'envoyer des canadairs va arroser, on va être inondé? Peut-être. Mais entre deux mots, on inonde et on écope après, ou alors on n'inonde pas, mais le feu continue à se propager, ils prendront plutôt le risque de dire on inonde et on écopera après. Voilà, si l'image permet de bien comprendre. Donc, je ne crois pas qu'il y aura justement cette. Il y a eu des exemples, hein. Enfin, on est passé par plusieurs phases, 29, 90, etc. Il n'y aura pas cette erreur. Donc, on va avoir un moment où on a une croissance qui repart, pas massivement, mais qui repart, et avec des politiques monétaires qui vont rester accommodantes. Et puis le jour où, de toute manière, la politique monétaire va commencer à se réajuster, ben, ça sera la bonne nouvelle. Ça veut dire que l'économie sera repartie.
Oui, alors c'était pas ce que les investisseurs pensaient il y a quelques mois ou quelques semaines avant que la Fed ne fasse rien. Le consensus était de dire la Fed va réduire
Mais c'est
ses
une erreur. C'est une erreur. Et
liquidités.
nous avait
Et... Oui.
prévenu. La Fed nous avait prévenu. Et la Fed nous a dit il y a quelques mois, je lie mon changement de politique monétaire à la diminution du chômage. et je veux un taux de 6,5%. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils disent ça. Ils l'avaient dit il y a plusieurs mois. On n'y est pas à 6,5%. Donc en fait, ils nous disaient quoi? Ils nous disaient tant que le taux de chômage sera ce qu'il est, 8, etc., on restera accommodant.
Pas de changement de ce
Il n'y a
côté-là.
pas eu de changement. Donc effectivement, la communauté financière, il y a 2 semaines, a été étonnée en disant, mais ils devaient bouger, ils ne bougeaient pas. Il suffisait juste de relire ce qu'ils avaient dit 3 mois avant. Donc, tant qu'il y aura du chômage aux États-Unis, ils feront attention. Alors, peut-être qu'ils vont diminuer les achats et que le quantitative easing sera moins fort, mais on ne va pas être dans une espèce de remontée brutale des taux. Ils ne prendront pas ce risque-là.
Alors, on parlait de ces marchés obligataires versus marchés actions, en disant que finalement ce qui se passera sur les marchés obligataires risque d'affecter aussi les actions. On a vu des actions peut-être affectées aussi avec le ralentissement dans les pays émergents, puisque les pays émergents eux aussi ont été touchés. Donc, les investisseurs, ils avaient joué beaucoup ces entreprises internationales capables de bénéficier de la croissance des pays émergents. Comment évolue justement la stratégie d'investissement?
C'est pas fini l'émergent. C'est pas fini. La croissance, je prenais l'exemple du fait que la démographie en Europe était un peu vieillissante, au Japon aussi d'ailleurs, alors que dans ces pays-là, ça continue à croître. Et puis vous avez tous les jours dans ces pays-là un nouveau riche, entre guillemets, quelqu'un qui accède, enfin qui a un pouvoir d'achat qui augmente. La tendance structurelle, elle est là. C'est-à-dire que la croissance demain, ou dans 5 ans ou dans 10 ans, ça sera dans les pays émergents et pas en Europe. Alors, encore une fois, pays émergents, ça ne veut rien dire. Il y a de tout là-dedans. Hein. Il y a la Turquie, il y a la Russie, il y a la Chine, il y a l'Afrique du Sud, il y a des pays qui ont des problèmes de balance de paiement. Et puis il y en a d'autres qui peuvent connaître des ajustements, mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire que, évidemment, dans ce monde où tout est interconnecté, où c'est des ordinateurs des fois qui régissent les marchés financiers, on assimile. Tapering, fin du tapering, donc les États-Unis vont retirer leur liquidité, ça sort des émergents, et puis éventuellement on vend aussi le luxe parce que le luxe en Europe est lié aux émergents. C'est des raccourcis trop rapides. Les émergents, c'est partout autour de la planète, ils n'ont pas tous les mêmes problèmes, certains auront des succès. Là aussi, il faut revenir sur certaines zones et regarder les comptes. Hein. Il y a des pays qui ont des problèmes de balance de paiement, cela faut les éviter, et il y en a d'autres qui ne vont pas aussi mal que ça. Donc, je crois que c'est un faux problème. Ça a été, il y a des questions de devise, mais le problème, c'est qu'il y a eu des flux, hein, et que, en fait, le fait que la Fed puisse laisser entendre qu'elle allait être un peu moins accommodante a fait qu'on s'est retiré, et que dedans, on s'est retiré à raison de certains pays, à tort d'autres.
Alors, vous parliez des devises, c'est un aussi des phénomènes peut-être les plus marquants de ces dernières années. Et là, on se dit que si on investit sur des portefeuilles internationaux, il faut être protégé du côté des devises, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer sur le dollar. Bon, le yen, on a vu ça il y a quelques
Oui.
mois, mais on a l'euro qui, on parlait des marchés au plus haut, l'euro
Oui.
aussi est très haut.
Oui. Alors bon, ça, c'est pas forcément la bonne nouvelle que l'euro soit au plus haut pour les exportateurs. Maintenant, si on prend l'euro-dollar, hein, on est à 1,34, 1,35. On est à 1,34, 1,35 parce que depuis 15 jours, il y a un peu ce côté cirque aux États-Unis. On se met d'accord, on ne se met pas d'accord, etc. Mais il y a 15 jours, on était à 1,30. 1,30, c'est un niveau qu'on a atteint chaque année depuis 10 ans. C'est-à-dire qu'on va au-dessus, on va en dessous, mais on revient à 1,30. Donc là aussi, il ne faut pas non plus surestimer l'impact dollar. C'est vrai que nos exportateurs préféreraient l'avoir à un niveau plus faible, mais ce n'est pas ça qui doit nous alerter plus que ça. Maintenant, si vous me dites que ça part à 1,50, 1,60, 1,70, on se reposera la question. Mais ce n'est pas réellement un souci aujourd'hui. Alors sur les questions de couverture, reparlons du yen et du Japon. L'idéal aurait été, depuis un an, d'avoir du Nikkei protégé, parce que finalement, il y a une corrélation parfaite, hein, c'est-à-dire que les Japonais ont fait monter le Nikkei, mais ils ont fait baisser leur devise. Donc pour un investisseur européen, avoir une action japonaise, c'était neutre. Il gagnait sur l'action ce qu'il perdait sur la devise. Bon, donc oui, il y a des protections à mettre en place. Maintenant, c'est jamais aussi facile,
Ouais,
c'est
ça
facile
coûte.
après coup, hein, de.
Oui. Le mot de la fin sur les actions que vous mettez en avant dans les portefeuilles, justement. On parlait d'actions internationales, d'actions françaises. Comment ça
Alors,
évolue?
sans aucun doute, les actions européennes. On n'est pas fondamentalement inquiet sur les actions américaines, mais on pense qu'il y a beaucoup qui a été anticipé, que la Fed va, d'une certaine façon, être protectrice pour le marché américain, mais que les marchés ont déjà anticipé ça, ce qui n'est pas le cas encore des actions européennes, parce qu'il y avait une grande méfiance sur les actions européennes. Il y a un an, vous auriez pu interviewer, certains de mes confrères qui vous demandaient à quel moment. L'Italie, l'Espagne, la Grèce, n'en parlons pas, elle devait sortir, elle est toujours là. Donc on voit bien qu'il y a des flux qui reviennent, parce qu'il y a une confiance qui revient, que les marchés, Ils sont plus bradés, c'est-à-dire que comme on dit en anglais, le re-rating a eu lieu, mais pas au point d'avoir un excès de valorisation. Maintenant, il faut que les bénéfices prennent le relais, et on pense que pour la première fois depuis 4 ans, les bénéfices vont prendre le relais en 2014, alors que depuis 4 ans, on commençait avec une anticipation en début d'année et on venait s'affaler vers zéro en fin d'année. On pense que pour la première fois, ça ne sera pas le cas en 2014.
Merci d'avoir fait le point avec nous, Eric Turgeman. On rappelle que vous êtes responsable adjoint mondial des gestions actions chez Amundi.
Merci beaucoup.